Voilà, Jacques Messiac, je suis journaliste et historien spécialisé autour de l'histoire de l'immigration polonaise, dans le Nord-Pas-de-Calais notamment. Et je suis également un des animateurs de l'association des Amis d'Édouard Guirec. Donc Édouard Guirec était une figure du mouvement ouvrier dans le Nord-Pas-de-Calais qui a été expulsé en 1934 et qui est devenu l'équivalent d'un chef d'État en Pologne en 1970.
Donc dans la région Hauts-de-France et notamment dans le bassin minier qui est large, hein, qui s'étend, on a beaucoup de populations d'origine polonaise en ce moment et donc on peut dire que cette population constitue une partie de la population de la région. Elle s'est intégrée, adaptée, elle a pour la plupart des personnes qui sont venues trouver un lieu pour travailler en France, dans notre région. Il y a eu un appel à un moment donné à la main-d'œuvre polonaise de la part des autorités ou des entreprises françaises.
Oui, on reviendra peut-être plus tard sur la question de l'intégration, hein, des Polonais, parce que ceux qui se sont intégrés, effectivement, c'est ceux qui ont eu la chance, qui ont été autorisés à rester sur le sol national. Par contre, donc l'arrivée des Polonais, l'arrivée massive, elle date des années 1920, hein, le Nord-Pas-de-Calais, notamment l'industrie minière, sort exsangue de la Première Guerre mondiale, hein, des destructions au niveau matériel, aussi des pertes de population. Et donc il y a un besoin criant de main-d'œuvre dans les mines. Et donc, la France signe avec la Pologne une convention d'émigration et d'immigration en septembre 1919 qui va être le prélude à l'arrivée massive de Polonais sur le territoire national. Donc la convention date de 1919, mais l'arrivée massive, on peut la situer à partir de 1922, hein, en suivant la courbe statistique.
Donc, cette ouverture à des ouvriers, à des travailleurs polonais, est-ce qu'elle s'est faite de manière harmonieuse dans la région, auprès des autres travailleurs notamment?
La plupart des travailleurs polonais qui vont s'installer dans le Nord-Pas-de-Calais vont travailler. Donc déjà, ils viennent pas en touriste, ils viennent pas faire du business, ils viennent travailler. La plupart travaillent dans les mines. Donc à peu près sur 10 actifs polonais, 8 travaillent dans les mines, 1 dans l'industrie textile et l'industrie textile ou métallurgique, et 10% travaillent dans l'agriculture. Au départ, ils partent sur des contrats d'un an et s'ils font leur preuve, ben, ils restent finalement dans les mines. Donc, vont se constituer dans le bassin minier des cités polonaises, presque, on va pouvoir appeler ça comme des ghettos polonais où la communauté polonaise va cultiver l'entre-soi quelque part. Donc on va voir apparaître des commerces polonais, des boucheries polonaises, des charcuteries, des boulangeries polonaises
Et des églises polonaises.
et des églises polonaises avec la bénédiction des compagnies minières. Hein, parce qu'il s'agissait pour les compagnies minières, et ça on le retrouve dans les archives, un peu les orientations données par le comité central des houillères de France qui regroupe l'ensemble ou la quasi-totalité des compagnies minières privées à l'époque, hein, avant la guerre. On retrouve vraiment cette volonté de créer un espace justement où les Polonais se sentiraient comme chez eux. Alors effectivement, les Polonais viennent avec tout un bagage catholique, hein, la plupart sont des catholiques, mais on va monter des églises, édifier des églises, faire venir des prêtres polonais pour protéger, ça c'est le terme, à protéger cette main-d'œuvre de l'influence jugée pernicieuse du syndicalisme marxisant, qui est à l'époque incarné alors par la CGT, plutôt réformiste, socialisante, hein, je caricature, hein, et par la CGT unitaire, hein, née d'une scission dans la CGT en 1922, qui est elle plutôt communisante.
Est-ce que ces Polonais qui sont venus dans le bassin minier du nord de la France venaient d'une région particulière de la Pologne ou de toute la Pologne?
La Pologne a été occupée à partir de la fin du XVIIIe siècle, hein, par trois puissances copartageantes, hein, la Prusse, ensuite l'Allemagne, la Russie et l'Autriche qui deviendra en 1871 l'Autriche-Hongrie. Donc on a une Pologne coupée en trois. Elle recouvre son indépendance, ou tout au moins elle proclame son indépendance en novembre 1918, signature de la Convention des migrations en 1919. Et là, beaucoup de Polonais viendront de Poznanie, donc à l'ouest de la Pologne, qui était sous occupation allemande, et également de Silésie, qui était sous occupation austro-hongroise, où sévissait un peu une industrie charbonnière à l'époque. Et une partie des Polonais aussi viendra du bassin de la Ruhr, d'Allemagne, parce qu'il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, les Polonais de Poznanie notamment, en quête de travail, sont partis œuvrer dans les mines de la Ruhr, donc à Bochum, Recklinghausen et compagnie. Et donc une partie de ces Polonais, suite au traité de Versailles, ils avaient le choix, soit ils restaient en Allemagne, et dans ce cas-là, ils déclinaient la nationalité polonaise, soit il prenait la nationalité polonaise, mais dans ce cas-là, il fallait qu'il quitte l'Allemagne. Et donc certains sont retournés en Pologne, mais d'autres sont venus directement travailler dans les mines de charbon du nord de la France, quoi.
Alors c'est vrai que notre région Hauts-de-France a un partenariat avec une province de la Pologne qui s'appelle la Silésie. Et ce que tu nous dis, c'est évidemment en correspondance, j'imagine. Puis un deuxième fait aussi, c'est que la musique qu'on appelle polonaise dans notre bassin minier, qui est assez atypique par rapport à ce qu'on entend en Pologne, elle est peut-être un peu à chercher du côté de la Ruhr ou d'ailleurs, enfin, c'est un peu particulier.
Oui, pour la musique, pour le folklore, il me semble qu'il y a des traditions multiples. Hein. Mais c'est vrai que ce folklore-là, est, notamment au niveau de la chorégraphie, au niveau de la danse, est complètement en décalage avec ce que produit aujourd'hui la Pologne, quoi. Donc c'est vrai que le regard des Polonais contemporains porté sur le folklore polonais, bon, c'est comme si nous, on regardait le folklore breton ou alsacien du 19e siècle, quoi. Donc il n'y a pas eu véritablement d'évolution, ça s'est resté figé du fait de l'entre-soi.
Donc on va dire que c'est un petit peu un esprit communautaire qui s'est développé avec, bien sûr, ces foyers d'animation, ces cultures qui ont été recréés à partir de, voilà, de, pas de modèles, mais d'inspirations variées, hein, en fonction d'où venaient ces personnes. Et finalement, on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que les Polonais qui sont, ou les gens d'origine polonaise sont des gens plutôt joyeux, plutôt festifs, au-delà du travail, bien sûr, hein, où ils sont considérés aussi comme des travailleurs, pas acharnés, mais quand même efficaces.
Oui, effectivement, en fait, ils ont... ce côté entre soi, l'isolationnisme, hein, ce qu'on appelle l'isolationnisme, a été préconisé non seulement par les houillères, il s'agissait surtout pour les houillères qu'ils aient le moins de contact possible. Alors évidemment, au fond de la fosse, dans la mine, on ne pouvait pas faire autrement. Mais au niveau de l'espace urbain, une fois qu'ils étaient remontés de la fosse, qu'ils aient moins de contact possible avec la communauté française, que les houillères estimaient gangrénés par le syndicalisme marxisant, hein, que j'évoquais tout à l'heure. L'église catholique, la mission catholique polonaise, voulait aussi protéger ses ouailles. Bon, déjà, elle avait une prétention à l'omnipotence, à l'omniprésence. Hein. Elle voulait maîtriser tous les aspects de la vie des fidèles. Et l'idée, c'était aussi de les protéger de l'influence jugée nocive du marxisme et, ou du syndicalisme ou des idées laïques et progressistes, hein, en vigueur en France, dans la perspective d'un retour en Pologne. Et également, c'était aussi ce qui était préconisé par le consulat, par les autorités polonaises, qui envisageaient aussi ce retour en Pologne à un moment donné de la main-d'œuvre, quand la situation économique polonaise se serait améliorée. Le problème, c'est qu'elle ne s'améliorera jamais durant l'entre-deux-guerres, parce que les pouvoirs capitalistes polonais ont toujours refusé de mener à bien une réforme agraire qui aurait permis une répartition des terres, qui aurait donné du pain à tous. Les Polonais ont vraiment quitté la Pologne parce que, pas de gaieté de cœur, parce que c'était la misère qui a régné jusqu'en 1939.
Alors bien sûr, on pourrait maintenant avoir une idée du contexte de travail de ces mineurs polonais, enfin d'origine polonaise, par rapport à leurs collègues. Est-ce qu'ils avaient les mêmes conditions de travail? Et est-ce que déjà, d'une manière générale, dans le monde des mineurs de l'époque, il y avait de grosses difficultés avec des révoltes, etc.? Et est-ce que les mineurs polonais y ont contribué, voire apporté des manifestations spécifiques?
D'après les sources archivistiques, effectivement, dès la grande grève des cheminots de 1920, donc en solidarité, les mineurs, avec des revendications spécifiques, vont entrer dans la danse et on va voir les premiers mineurs polonais aussi à Icourt, à la Fossis d'Icourt, près de Brué, en Artois à l'époque, rentrer dans le mouvement. Donc très vite, les meneurs et les agitateurs vont être renvoyés en Pologne. Normalement, ils avaient, d'après les conventions, une convention signée en 1920, ils avaient les mêmes droits que les travailleurs français. mais ils avaient quand même des revendications spécifiques. Bon, les droits n'étaient pas forcément respectés, hein, mais ils avaient théoriquement les mêmes droits. Bon, il y avait des revendications spécifiques qui concernaient, par exemple, les panneaux de sécurité en langue polonaise, etc. Bon, voilà. Par contre, en cas de retournement de la conjoncture économique, comme ça se passera à partir des années 1931, hein, quand la Grande Dépression va faire sentir ses effets dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, là, les travailleurs étrangers vont être exposés prioritairement aux sanctions, aux congédiements, aux licenciements et également aux renvois forcés au pays. Donc, ils arrivent en masse en 1922. C'est une période d'expansion jusqu'en 1929. Et à partir de 1931 jusqu'en 1936 et l'avènement du Front populaire, là, on aura une période de récession pour la communauté polonaise. Donc, récession, ça va se traduire par la chasse aux syndicalistes, la chasse aux rouges, les expulsions des mineurs qui étaient considérés comme des agitateurs, hein, à tort ou à raison, et également les renvois forcés par train entier en Pologne. C'est pas forcément des expulsions à proprement parler, parce que l'expulsion, c'est un acte individuel, c'est un décret signé par le ministère de l'Intérieur, hein, selon une loi de 1849, donc qui concerne un individu qui est invité à regagner son pays. Alors, ça peut être des droits communs, mais c'est souvent aussi des politiques ou des syndicalistes dans ces années 30. Hein.
Donc, on va revenir à un moment très précis, c'est 1934. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécifique cette année-là ?
Alors 1934, c'est l'année noire par excellence de l'histoire de cette immigration polonaise. Il y a deux événements spécifiques. Le premier, c'est l'expulsion la figure de proue du syndicalisme polonais en France. Il s'appelle Thomas Olszanski. Alors Thomas Olszanski, c'était un... Alors lui, il n'est pas arrivé en 1919, 1922, dans les années 20. Il est arrivé en 1909. Donc, il vient d'Autriche-Hongrie, il est arrivé de façon individuelle. Et donc il va très tôt militer au sein du syndicat CGT, proche de Benoît Brouchou, etc. Dans les années 10, hein, il va travailler du côté de Méricourt. Et il va participer à la Première Guerre mondiale au service des Alliés. Donc il y avait l'armée polonaise, l'armée à l'air qui s'était constituée. Donc il va intégrer cette armée. Et donc en récompense de son investissement au service de la France va généreusement lui octroyer la nationalité française en 1922. Donc il devient citoyen français, et à partir de ce moment-là, ce syndicaliste va agir au grand jour. Alors il va être extrêmement charismatique, hein, il maîtrise le polonais, évidemment, l'allemand, un peu de russe, il maîtrise également le patois qui est parlé dans les mines, et donc il est extrêmement charismatique, et donc ses réunions sont suivies par des dizaines de mineurs polonais. Il est membre de la direction nationale de la CGT unitaire, de la Fédération des mineurs, il sillonne le pays, on compte jusqu'à 250 à 300 meetings par an, et donc évidemment ça ne va pas plaire aux autorités, et donc en 1932, la justice française va décider de le dénaturaliser. On va lui enlever la nationalité française. Et là, il devient un sans-patrie, un apatride. Et il va rentrer dans la clandestinité. Il va continuer son activité jusqu'à son arrestation. Alors, on l'a célébré là à Lalin, donc dans le Nord, il y a quelques semaines. Il va être arrêté en septembre 1934. Donc, il a été dénaturalisé. Après, il a fait l'objet d'un décret d'expulsion. Mais comme il est rentré dans la clandestinité, comme il n'a pas répondu positivement à ce décret d'expulsion, on va l'arrêter, on va le mettre en prison à Béthune pendant un mois. Ça, c'est la règle pour les expulsés qui ne regagnent pas leur pays. Et à partir de ce moment-là, on le sort de prison à Béthune. Il est attendu à la sortie à 8h du matin et les forces de l'ordre vont l'amener en catimini en Belgique. On va le faire traverser la frontière en Belgique de façon clandestine. Et là, il va se retrouver à Bruxelles. Il va être pris en charge par le Secours Rouge International, qui était un organisme qui venait en aide aux prisonniers politiques. Et de là, il va demander l'asile politique en Union soviétique, qu'il va obtenir. Donc il va revenir en Pologne qu'en 1945. Donc ça va être évoqué au niveau national. Il va y avoir un comité de soutien avec des gens comme André Malraux, Lurka, etc., qui vont prendre fait et cause en sa faveur. Mais ça ne va pas empêcher son expulsion en Pologne. Donc ça, c'est quand même un événement qui marque, c'est 1934. Et au mois d'août 1934, là, c'est le deuxième événement marquant de cette année-là, c'est l'expulsion de mineurs, d'une petite centaine de mineurs de la fosse 10 de Le Forêt, qui feront l'objet d'un arrêté d'expulsion suite à deux grèves, une menée en mai et une autre au mois d'août. Et donc là aussi, là, ça va faire la une des journaux nationaux et même des journaux français nationaux et des journaux polonais.
Donc, au XXIe siècle, on a un environnement politique qui a évolué. Tu parlais de Benoît Brouchou tout à l'heure. Ce n'est pas forcément la même tendance que celui dont tu parlais tout à l'heure.
Alors, Thomas Chomsky, alors il se rend, Thomas Chomsky, il est militant de la CGT unitaire, c'est un militant communiste également, mais alors ce qui est paradoxal peut-être à l'époque, ou pas tant que ça finalement, il se réclame autant de Benoît Brouchou que de Joseph Staline, que de l'Union soviétique, de la construction du socialisme en Union soviétique. Il y a de fortes, comment dire, influences anarcho-syndicalistes qui vont perdurer dans le bassin minier jusqu'aux années 50, quoi. Donc là, c'est pas incompatible d'être favorable à. Enfin, d'avoir des pratiques anarcho-syndicalistes et puis d'avoir le regard tourné vers Moscou comme troisième Rome.
Au XXIe siècle, remettre en valeur cette histoire, la présenter, la commenter, qu'est-ce que ça peut amener je vais dire à l'humanité d'une manière générale? Est-ce que ça peut donner des réflexions dans le contexte peut-être actuel, voire aussi des dérives qui ont eu lieu à ce moment-là et qu'il faudrait essayer d'éviter à l'avenir? Sinon maintenant, est-ce que justement il y a une leçon d'histoire d'une certaine manière qui peut être utile à des contemporains?
Ben, j'imagine, parce qu'on se dit toujours aujourd'hui qu'on est dans un contexte de répression tous azimuts, etc. Enfin, je crois qu'il faut relativiser l'oppresseur, c'est-à-dire le régime capitaliste et ceux qui en profitent quelque part, adaptent leur réaction à l'ampleur de l'offensive du mouvement ouvrier. Voilà. Et donc, cet exemple est vraiment typique, quoi, de la façon dont les autorités ont réagi de peur que enfin, cet exemple soit suivi dans d'autres fosses, quelque part. Donc il fallait agir vite. Alors la caractéristique de ce mouvement de grève de d'août 1934, c'est qu'ils vont faire grève au fond d'un puits de mine. D'après certains historiens, c'est la première fois que des mineurs font grève au fond d'un puits. Alors on va les accuser d'avoir retenu en otage des porions, enfin les contremaîtres, hein, et même des ingénieurs, alors que c'est tout à fait faux. Et à la sortie, on va leur promettre l'impunité. À la remontée, au bout de 35 heures, donc de 35 heures d'occupation du fond. La grève, c'est le 6, elle se termine le 7. Et le 8, le ministre de l'Intérieur signe un décret d'expulsion à l'encontre de 77 d'entre eux. Il faut rappeler quand même qu'ils ont fait grève en solidarité avec les expulsés du mois de suite à. Voilà. Et donc, voilà où on en est. Et il y avait déjà eu des affrontements violents, notamment à Salomine, entre grévistes polonais et forces de l'ordre. Et donc là, ils craignent quand même un embrasement sur l'ensemble du territoire.
Donc, en 1934, il y avait une population autour d'eux, malgré qu'ils soient un peu, pas isolés, mais un peu parqués. Est-ce qu'il y avait une sorte de solidarité entre justement ces travailleurs polonais et d'autres travailleurs, voire même la population en général?
Ben, c'est la question qui se pose, pourquoi cette grève n'a pas fait davantage bouger dans les autres puits. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a été mal préparée? Parce qu'au départ, il semble, d'après les archives de police et même les rapports syndicaux, ils étaient partis sur une grève des bras croisés d'un quart d'heure à une demi-heure. Et finalement, pour une raison qui sont difficiles encore à déterminer, c'est parti en live, on va dire, et ils vont rester 35 heures, quoi. Donc ils n'avaient rien préparé, ils n'avaient pas préparé de quoi boire, de quoi se sustenter, etc. Donc évidemment, ils ne pouvaient pas tenir comme ça une semaine au fond du puits. Et s'ils étaient partis dans l'idée de rester 2 ou 3 jours, sans doute que des mots d'ordre auraient été donnés dans les autres puits en solidarité. Et là, ça s'est pas fait. Par contre, à la sortie, effectivement, là, c'est aussi un point d'interrogation. Il n'y a pas eu de tentatives d'empêcher leur départ. Bon, c'est vrai que les gardes mobiles étaient présents en nombre, mais il n'y a pas eu de tentative d'empêcher le départ ou de faire grève dans d'autres puits pour manifester sa solidarité. Donc ça, c'est encore une question que nous nous posons du pourquoi.
Donc 1934, 5 ans après, ben 1939, et puis cette déportation, est-ce que des mineurs polonais ont aussi été concernés, parce qu'on sait qu'il y a eu des militants syndicaux, notamment en France, qui ont été déportés. Est-ce que les mineurs polonais qui sont restés, pour le coup, qui étaient peut-être moins politisés que ceux qui ont déjà été expulsés, ont aussi été, on va dire, dérivés vers les camps de concentration ?
Oui, en fait, il y a deux sortes de déportations. Il y a les résistants, donc les Polonais sont entrés dans la résistance, hein, dans la résistance communiste au sein des FTP. Ils l'ont payé cher. Hein. On a des gens comme une personne de Foukier-les-Lens, Bolesław Kania, qui a été décapité. Il y a d'autres Polonais qui ont été fusillés à la citadelle d'Arras. D'autres ont été déportés en Allemagne. Après, les Polonais, dans leur majorité aussi, ont participé aux mouvements de grève qui ont ponctué la Seconde Guerre mondiale, notamment la grande grève de mai-juin 1941, ça a été quand même, il y avait 100 000 mineurs en grève, donc sans la participation des Polonais, cette grève aurait été un échec d'emblée. Là, ils ont quand même tenu plus de 15 jours. Donc il y a une participation des Polonais dans la résistance. Il y a eu aussi une participation d'une autre partie des Polonais dans la collaboration. Parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, certains venaient d'Allemagne. Et donc, ils ont trouvé plus pratique peut-être de collaborer avec les Allemands. Il y avait une similitude de langue et tout ça. Et la propagande allemande va... Donc il y aura une association de collaborateurs qui va être ouverte aux Polonais, qui s'appelle les Volksdeutschen. Et donc le Troisième Reich va habilement jouer un peu sur l'appartenance supposée de ces Polonais au Troisième Reich. Et ils vont notamment dénoncer un peu le fait que les Polonais, lorsqu'ils sont arrivés, on leur avait promis l'Eldorado. La France était le pays du pain blanc, hein, par rapport au pain noir qu'ils mangeaient en Pologne. Et finalement, ils vont stigmatiser le fait que les houillères, à défaut d'Eldorado, vont leur offrir le bagne de la mine, quoi. Et qu'ils auront été méprisés, exploités, etc. Donc ils vont jouer, la propagande allemande va jouer sur ce fait-là. Il y a à peu près 5000 Polonais dans le Nord-Pas-de-Calais qui vont adhérer à cette association.
Donc 1945, c'est le début, on va dire, pour la France, hein, de cicatriser ses plaies. Il faut bien sûr du temps. Est-ce que aussi cette histoire polonaise met du temps à se positionner ou à être intégrée au fil de l'histoire qui suit ?
C'est-à-dire que les Polonais, à la Libération, ont le choix d'un retour volontaire, cette fois en Pologne. Hein. La Pologne prétend s'engager dans la voie de la modernité et du socialisme, quelque part. Hein. Donc la Pologne dictatoriale d'extrême droite de Pilsudski et des colonels fait place à la Pologne pro-soviétique et du parti ouvrier polonais, hein, qui était un peu le nom du parti communiste en Pologne. Et donc la Pologne populaire va inviter ses enfants disséminés à travers le monde au retour au pays. Donc on va voir même ici de Lens, le premier départ vers la Pologne va se faire en mai 1946. Et on aura un total à peu près de 62 000 Polonais de France qui repartiront en Pologne sur une population qui était estimée à peu près à 450 000 Polonais en France. Donc on peut estimer qu'à peu près 15 à 20% de la population polonaise de France va faire le choix du retour volontaire en Pologne. Et ça, c'est aussi une des conséquences de ces années 30 où, qu'ils ont vécu comme quelque chose de tout à fait instable, quoi. Ils se sont dit, si de nouveau la conjoncture économique se retourne, on risque encore d'être expulsé là en Pologne sans qu'on ait notre mot à dire. Donc là, ils vont repartir en Pologne et ces Polonais de France seront un peu les bâtisseurs de la Pologne populaire. La plupart seront acheminés vers la Basse-Silésie pour y travailler dans les mines. Alors, la Basse-Silésie, c'est tous des territoires qui ont été récupérés, arrachés à l'Allemagne, qui étaient allemands avant 1945 et qui ont été récupérés par la Pologne. Donc ça montre aussi que les Polonais n'avaient pas l'intention, là, cette fois-là, de s'intégrer dans la société française. Aujourd'hui, souvent, les Polonais sont présentés comme des modèles d'intégration dans la société française. Bon. Alors c'est oublié, déjà, ceux qui sont partis là de façon expulsés ou bien qui ont fait l'objet de renvois qu'ils ne souhaitaient pas dans les années 30. C'est oublié aussi que beaucoup de Polonais sont partis. Ils venaient beaucoup des campagnes polonaises. Et donc certains sont arrivés dans les mines en 22-23. Ils ont pris très vite la poudre d'escampette, quoi. Ils trouvaient inconcevable de travailler dans ces conditions-là. Donc ils sont repartis au bout de 2 mois, 3 mois. Et c'est oublié aussi le fait que des Polonais sont partis là de façon volontaire à la Libération. Donc ça contredit le mythe, cette légende rose, ce que j'appelle la légende rose de l'intégration facile et sans histoire des Polonais dans la société française. Et ça, c'est un discours qu'on a retrouvé dans les années 80, quand ici, un peu en France, on a sombré aussi dans la crise économique du capitalisme. On mettait les Polonais sur un piédestal, peut-être pour mieux incriminer d'autres communautés étrangères soi-disant incapables de s'intégrer dans la société française. Et ça, c'est un discours qu'on retrouve, par exemple, il y a un salon polonais tous les ans à Hénin-Beaumont, et c'est le discours qui est tenu par Marine Le Pen, par exemple. Donc, on met les Polonais sur un piédestal pour stigmatiser d'autres communautés étrangères. Donc, on vise surtout les Maghrébins. Mais on oublie aussi que les Polonais, dans les années 30, quand vous lisez la presse nationale ou même la presse régionale, ou même les romans de Maigret, les Polonais étaient assimilés à des bandits, à des gens incapables de s'intégrer. On a un rapport du sous-préfet de Béthune en 1929 qui dit que les Polonais seront incapables de s'intégrer dans la société française. Et à l'époque, on mettait sur un piédestal les Belges, qui étaient arrivés à la fin du 19e siècle. Mais les Belges, quand on voit ce qu'ils ont vécu aussi à la fin du 19e, au début du 20e, c'était pas jojo non plus. Donc voilà. Donc il y a une espèce d'instrumentalisation, et c'est ce qu'on essaye aussi, nous, de dénoncer avec l'association Les Amis d'Edouard Guirec.
Voilà, donc à partir de là, bien, vous avez votre association qui se penche sur l'histoire. Est-ce que les documents sont bien conservés, sont faciles à consulter, sont riches aussi d'histoire ?
Oui, les archives, évidemment, parce que les étrangers, mais pas que les étrangers, étaient particulièrement surveillés par la police politique. Donc on a, dès qu'une association se réunissait, dès qu'il y avait un rassemblement, on a des rapports de police. Donc on peut dénoncer la police, enfin la présence policière, mais pour les historiens, c'est un outil précieux. Donc on a les archives de police qui sont conservées aux archives départementales, à Arras ou à Lille. On a également les rapports des houillères. Donc on a quand même des matériaux pour travailler sur ce sujet. Hein. C'est un sujet qui fait l'objet d'une relative recherche depuis une trentaine d'années.
Voilà, ben c'est le travail des historiens et des enseignants. Comment on gère cette histoire aussi, j'allais dire, dans les établissements scolaires, à quel niveau on peut présenter cette problématique ?
Oui, le souci des enseignants, c'est qu'ils sont parfois prisonniers des programmes. Et l'histoire d'immigration polonaise n'a pas beaucoup de place, à ma connaissance, hein, dans les ouvrages, soit dans les collèges ou dans les lycées.
Donc est-ce qu'à Paris, à la Cité de l'immigration, on trouve aussi un intérêt à cette histoire-là ? Est-ce que c'est mis en valeur ? Est-ce qu'il y a une base consultable de données ?
Oui, il y a des choses à Paris. Donc ils ont déjà aussi consacré des expositions spécifiques à l'immigration polonaise. Hein. Donc là, il y a un travail sérieux qui est fait. C'est qu'il y a au 19e siècle, il y a une immigration plus politique avec des gens comme Adam Mickiewicz, par exemple, ou Chopin qui se sont installés à Paris. Et on a la bibliothèque polonaise de l'île de la Cité à Paris, beaucoup de documentation sur cette immigration un peu politique qui n'avait rien à voir avec l'immigration massive ouvrière du XXe siècle, mais on a des choses... voilà. Ceux qui s'intéressent à la question, moi je les invite à aller consulter les archives, déjà au moins au niveau départemental. Il y a des archives également au Centre historique minier de Leuward. Là, c'est des archives minières qui sont consultables. Donc il y a quand même il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'immigration polonaise.
Un ouvrage éventuellement à conseiller ?
L'ouvrage qui fait un peu la synthèse sur cette histoire et qui s'arrête à peu près en 1939, c'est l'ouvrage de référence, c'est celui écrit alors déjà au milieu des années 80 par Janine Ponty. Alors c'était les publications de la Sorbonne, et alors le titre m'échappe, ça doit être « L'immigration polonaise durant la Seconde Guerre mondiale ».
Merci Jacques Spéciac.
Merci René pour l'accueil et pour l'attention portée au sujet.